Bonjour à tous, frères et sœurs. Tous ceux que je n'ai pas pu saluer encore, j'espère avoir l'occasion de vous saluer à la fin du culte, pour que tous nous puissions nous saluer les uns les autres dans la grâce du Seigneur. Prions d'abord encore avant de ce message, que ce soit vraiment l'Esprit de Dieu qui guide les choses. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour, ta fidélité, Seigneur. Oui, toi tu es un Dieu fidèle et ce que tu as fait depuis le début, depuis le commencement, tu l'achèves jusqu'à la fin, Seigneur. Tu connais toutes choses du début à la fin. Et nous ne voyons pas tout, mais toi tu vois tout. Aussi, nous voulons nous placer devant toi afin que tu nous éclaires, tu nous instruises par ta parole, Seigneur, car c'est toi que nous voulons entendre, Seigneur, et c'est toi aussi que je veux faire entendre, Seigneur, pas moi, pas ma voix, pas ma parole, mais ta voix, ta parole, Seigneur. Bénis-nous, donne-nous et accorde-nous ton Saint-Esprit. Amen. Alors, pour ce message, en fait, j'ai décidé de prendre un livre de la parole de Dieu et de dimanche après dimanche, à chaque fois que je ferai un message, je prendrai la suite. Parce que prendre un thème, c'est toujours difficile, on ne sait pas sur quel thème prêcher. Alors là, je prends un chapitre de la première épître de Pierre. Et donc, nous allons d'abord lire ensemble le premier chapitre et ensuite, je ferai quelques zooms sur quelques versets. Bien sûr, je ne vais pas expliquer tout le chapitre aujourd'hui, hein, comme je l'ai déjà dit dans des messages précédents. On ne peut pas tout dire, ce n'est pas possible, mais on va mettre quelques flashs, quelques zooms sur certains passages. Alors, nous allons commencer d'abord par lire ensemble. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. À ceux qui sont étrangers et dispersés. L'apôtre Pierre s'adresse donc à ceux de la dispersion, selon la traduction Darby, ce que l'on appelle la diaspora, la dispersion des Juifs qui a commencé au VIe siècle avant Jésus-Christ. En moins 605, si on compte à partir de Jésus-Christ, il y a eu l'invasion de Juda par Nabucodonosor II, qui était aussi nommé Nebuchadnezzar en hébreu. Il y a eu une première déportation en moins 605, une deuxième en moins 597, et en moins 587, il y a eu la prise et la destruction de Jérusalem, et la captivité du peuple juif à Babylone et la fin du royaume de Juda. Ces juifs ont ensuite, au cours des siècles, été dispersés dans toutes les nations. Et régulièrement, ils allaient en pèlerinage à Jérusalem. Nous en retrouvons d'ailleurs quelques-uns au chapitre 2 des Actes. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Pierre s'est adressé à eux le jour de la Pentecôte, Actes 2,14. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Vous pouvez lire la suite du discours dans Acte 2. Ces Juifs ne sont pas restés à Jérusalem, ils sont retournés dans leur pays. Et il est donc normal que Pierre cherche à les instruire et à les entretenir dans la foi. Ces Juifs, il est dit, sont étrangers. En fait, ils séjournent parmi les nations, mais leurs cœurs sont tournés vers Jérusalem. Et nous pouvons nous-mêmes être un peu comme eux, étrangers et voyageurs sur la terre, le cœur et les yeux tournés vers la Jérusalem céleste. Dans tous ses voyages missionnaires, Paul s'est adressé en premier lieu aux Juifs de la diaspora, et quand ils n'étaient pas bien reçus, ils se tournaient vers les païens pour leur apporter la grâce de l'Évangile. Et Paul dira en Galates 2, 8, « Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. » Si Pierre a adressé cette lettre aux chrétiens d'origine juive, donc des circoncis, cette instruction nous concerne aussi, car la plupart d'entre nous venons d'une société dite judéo-chrétienne, qui a toute une histoire et une tradition derrière elle, même si la société s'en éloigne à grands pas. La deuxième raison, c'est que dans les églises évangéliques, il y a parfois plusieurs générations. Et il peut y avoir aussi des enseignements, des traditions qui se mettent en place, comme cela avait été le cas parmi les Juifs. Il faut donc toujours reprendre les choses au début ou dans le bon angle. Le verset 2 nous dit que nous sommes élus selon la préscience de Dieu le Père. Préscience, ou traduit autrement, préconnaissance. Dieu connaît toutes choses, le passé, le présent et l'avenir. Nous, les hommes, nous connaissons un peu du passé, pas tout. Nous connaissons un peu du présent, pas tout non plus, et quelquefois cela vaut peut-être mieux. Et nous ne connaissons rien de l'avenir, ou des suppositions, des projections, des projets. Le peu que nous connaissons de l'avenir, c'est ce que Dieu nous laisse entrevoir et que nous devons saisir par la foi. Comment imaginer ce que Dieu voit et connaît? Le temps est une invention de Dieu pour nous, pour rythmer la vie des hommes. Dieu est en dehors du temps. Le psalmiste disait « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » Et Pierre dira dans sa deuxième lettre « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Quand nous voyons l'éclat d'une étoile, sa lumière a mis parfois des milliers d'années avant de nous parvenir. Et peut-être que, quand nous la voyons, elle est déjà morte. Dieu, lui, a déjà vu la naissance de cette étoile et sa mort. Alors que nous ne voyons qu'une fraction de sa vie durant la centaine d'années, en gros, que nous vivons sur Terre. C'est quelque chose de fascinant et de difficilement compréhensible pour notre raison humaine. Et en y réfléchissant, nous pouvons toucher un peu du doigt la notion de préscience ou préconnaissance de Dieu. Par rapport à cette étoile, Dieu pourrait nous dire à l'instant, cette étoile est déjà morte, alors que nous, nous la voyons encore. Comment comprendre ça? Comprenez? Le temps ne touche pas Dieu. C'est une invention de Dieu pour nous. Dieu connaît toutes choses. Et il est difficile aussi pour nous de lier la notion de liberté et la notion d'élection. Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire un être libre de ses choix, avec le risque que l'homme se détourne de lui. Si Dieu décide pour nous, notre liberté s'en trouve diminuée. Donc, comment lier la notion de liberté de l'homme et la notion d'élection? Les hommes qui répondent à l'appel de Dieu sont sauvés, tout en étant libres, car ils choisissent la solution donnée par Dieu. Dieu, ayant la préscience, connaissant les choses à l'avance, on peut dire que ces hommes sont élus selon la préscience de Dieu. En ce qui concerne la volonté de Dieu, il est écrit qu'il faut prier pour tous les hommes, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans 1 Timothée 2. Et le verset 17 de Pierre dit que Dieu juge sans favoritisme. Donc Dieu ne fait pas de favoritisme, il ne favorise pas l'un ou l'autre, mais nous sommes élus selon la préconnaissance de Dieu. Par contre, le plan de salut est vraiment un dessein arrêté, une volonté arrêtée de Dieu. C'est lui qui en est le concepteur et l'instigateur. Dans Actes 2, versets 22 à 24, « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. S'il y a une prédestination, c'est dans ce dessein arrêté, ce plan de salut par la mort et la résurrection de Jésus. Nous avons lu « Prédestiné avant la fondation du monde ». Dieu ne peut donc pas être accusé d'injustice. Puisqu'il veut que les hommes soient sauvés et qu'il a conçu le plan du salut avant la fondation du monde. Ce que nous confirme Pierre au verset 18 et 20, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Dieu a ainsi pu concilier la liberté accordée à l'homme et sa volonté de les sauver en apportant lui-même la solution. L'homme gardant la liberté d'accepter ou refuser le salut. Romains 11, 33-36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Béni soit Dieu qui nous a régénérés. La définition de régénérer, c'est reconstituer, rétablir ce qui était détruit. Dieu nous a régénérés. Et au verset 23 de 1 Pierre, nous lisons, il nous a régénérés par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est la parole de Dieu qui rétablit en nous ce qui était détruit par le péché. C'est Dieu qui a tout fait. À partir du vieil homme, Dieu a fait un homme nouveau. Dans Tite, au chapitre 3, versets 4 à 7, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Nous sommes héritiers. Pierre parle aussi d'héritage qui nous est réservé dans les cieux. Le salut est accompli. Il a été accompli une fois pour toutes par Jésus. Mais l'héritage n'est pas pour cette terre. Il est dans les cieux. Et le salut est prêt à être révélé dans les derniers temps. Au verset 6, il est écrit « C'est là ce qui fait votre joie ». C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure, la joie du salut. Nous sommes sauvés. Quoi que maintenant vous soyez attristés. Nous nous réjouissons du salut, et il est dit aussi qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Mais pour l'instant, nous sommes souvent attristés. Et ce décalage dans le temps provoque beaucoup de frustration et d'incompréhension parmi les chrétiens. Pierre veut les encourager et affermir ceux dont la foi est éprouvée. Le résultat de l'épreuve de notre foi, ce sera la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ce que l'apôtre précise pour nous encourager, c'est que Christ a aussi souffert l'épreuve. Nous le lisons au verset 11. Ils voulaient, donc les prophètes, sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Le Créateur de toutes choses a souffert et la gloire a suivi. Encore une fois, Dieu ne peut pas être accusé de tester notre foi en nous faisant souffrir sans être affecté lui-même. En Christ, Dieu a souffert. Christ a souffert jusqu'à la mort pour nous donner cet héritage dans le ciel. Un frère écrivait dans un livre que, grâce à Jésus, Dieu comprend ce que celui qui souffre ressent. Et cette pensée-là est un grand réconfort pour tous ceux qui souffrent à travers le monde et qui ont souffert au cours des siècles. Christ aussi a souffert. Verset 9, « Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Dans certaines églises, quand il y a l'épreuve et la souffrance, la question de la foi est souvent évoquée. C'est-à-dire que la foi des personnes touchées est parfois remise en question. Et l'on peut entendre dire « si vous n'êtes pas guéri, c'est que vous n'avez pas assez de foi ». Et nous pouvons parfois nous remettre en question en disant « est-ce que nous avons eu assez de foi ? Est-ce que nous avons prié avec assez d'intensité ?» etc., etc. Dans la parole de Dieu, la foi est présentée sous deux aspects. Premièrement, premier aspect, la foi qu'on dira conquérante, qui obtient des réponses. Mais deuxièmement, la foi qu'on pourrait dire persévérante, qui n'obtient pas la réponse, mais qui reste confiante envers et contre tout. Dans Matthieu 17, 20, Jésus nous présente la première, la foi conquérante, quand il dit « Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Et dans Matthieu 24, versets 12 et 13, Jésus nous parle de la seconde, la foi persévérante. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dit aussi en Luc 21, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ces deux aspects de la foi apparaissent aussi dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux qui nous présente les héros de la foi. Hébreux 11, versets 32 à 40. Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Ce sont des exemples de foi conquérante. D'autres furent livrés aux tourments et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ici, ce sont des exemples de foi persévérante. Croire malgré tout. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de hiérarchie dans ce texte. Tous ont eu la foi. La foi conquérante n'est pas au-dessus de la foi persévérante. Nous devons donc éviter de mettre l'une au-dessus de l'autre. Ce qui est important et ce qui est le but final, c'est le salut de nos âmes. Et les temps qui viennent risquent fort d'être difficiles. Nous aurons bien besoin de la foi persévérante. Au verset 13, il est dit « Saignez les reins de votre entendement ». Et vous connaissez ces passages de Luc 12, 35 « Que vos reins soient sains et vos langues allumées ». Et dans Éphésiens 6, 14 « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, etc. » Saint, ceinturé, maintenu, prêt à marcher, à travailler ou combattre. C'est la marque d'un homme qui ne se laisse pas aller et qui se maintient pour garder une certaine dignité. Alors que desserrer la ceinture, c'est le symbole du laisser aller. Pierre nous dit donc de ceindre, de contenir notre entendement, notre intelligence, notre esprit. Ne pas le laisser aller, ne pas le laisser divaguer, ne pas le laisser partir dans tous les sens. Maintenir notre esprit dans la foi, dans ce que la parole enseigne. Nous pouvons facilement nous égarer à cause de la maladie, d'une blessure, d'une épreuve. L'esprit tourne en rond et cherche des raisons. Et dans la douleur, nous pouvons exprimer des choses que nous regrettons ensuite. Et nous pouvons aussi douter de Dieu. Il nous faut donc contrôler notre esprit, ceindre notre esprit, saigner les reins de votre entendement et garder la parole comme seule référence. Et cela n'est possible qu'avec, bien sûr, le secours du Saint-Esprit. toutes les pensées des hommes passent, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Alors que Dieu nous fortifie tous. Amen.